Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Émilie Zapalski, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste en communication politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Alors, à l'heure où nous parlons, le Premier ministre doit être à son bureau en train d'écrire et de relire le discours de politique générale qu'il prononcera après-demain devant les députés. Un exercice qui est toujours attendu, toujours redouté, hein, tout dépend de quel côté on se place.
Mais c'est toujours compliqué, c'est un style déjà, hein, une façon de parler. Alors, François Bayrou, on le connaît, hein, c'est quand même quelqu'un qu'on connaît. Et on connaît son côté un petit peu historique, on va dire. On l'a vu déjà en exercice, hein, répondre aux questions des députés il y a peu de temps. Et c'est vrai que moi, je l'ai trouvé un peu décevant dans la mesure où c'était sur Mayotte, donc c'était des questions d'urgence, évidemment, après ce qui s'est passé sur Mayotte. Et il revenait dans l'histoire avant de livrer vraiment ce qui concernait les actions qui étaient mises en place par l'État pour essayer d'aider les Mayorais. Là, ce qui est important, ce qui va être important, et ce qui est important aujourd'hui, parce qu'il fait un véritable travail d'équilibriste, hein, pour ne pas être censuré,
oh, on va y venir.
C'est de donner des éléments, sans aller trop dans le détail, mais de quand même donner quelques signaux, quelques axes sur la politique qu'il va venir. C'est vraiment un discours de politique générale, c'est vraiment ça, donner 3, 4, 5 axes qui montrent dans quel sens il veut aller sur le régalien, sur le social et bien d'autres sujets.
Ce n'est pas juste de la rhétorique.
Non. C'est pas juste de la rhétorique, ça donne véritablement des signaux. Je sais pas si vous vous souvenez de celui d'Elisabeth Borne qui essayait de satisfaire un peu tous les partis qui étaient représentés à l'Assemblée. Gabriel Attal aussi avait donné un sens de ce qu'il voulait faire sur l'éducation. Il y a vraiment des messages clés qui sont donnés, alors avec plus ou moins de détails. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir un certain niveau, une certaine hauteur de vue pour dire voilà dans quel sens je veux aller et ne pas être trop dans les listes à l'après-vert et d'aller trop dans un niveau de détail. Mais je ne pense pas que ça sera le cas de François Bayrou parce que, comme on l'a dit, il fait un travail d'équilibriste, donc il ne va pas tout se dévoiler dans le détail pour le moment.
Alors, que va-t-il dire? On verra bien. En tout cas, pour l'instant, rien n'est figé, puisqu'en ce moment même, ses conseillers et ses ministres, à commencer par celui de l'économie, s'agitent en coulisses, négocient pour s'assurer que ceux qui peuvent censurer le gouvernement ne le feront pas si François Bayrou leur donne ce qu'ils demandent. C'est à gauche que cela se passe, car il est beaucoup question de la réforme des retraites. Aujourd'hui, il est prévu que l'âge légal passe à 64 ans progressivement jusqu'en 2030. Alors, tous les regards se tournent vers le Parti Socialiste. Son chef était ce midi sur BFM TV.
On suspend. Et puis derrière, ce que l'on fera, c'est qu'on aura une discussion avec les partenaires sociaux. Nous chercherons des solutions qui permettent non pas simplement d'abroger, mais de remplacer la loi Brand par une autre loi.
Au moment où nous parlons ce matin, le compte n'y est pas encore. Il y a une négociation. Et comprenons-nous bien, quand on parle de négociation, il ne s'agit pas, comme souvent, d'un espèce de simulacre dans lequel chacun arrive, rentre, sort, fait sa déclaration et puis basta. Cette fois-ci, nous sommes entrés dans une vraie discussion où nous échangeons. Nous amenons à la fois des revendications, mais aussi des solutions techniques, financières, qui permettent d'avancer. Et donc, nous cherchons à voir quelles sont les voies qui permettent la conciliation. Moi, je ne sais pas ce que le Premier ministre va décider, et donc je ne sais pas dans quelles conditions nous serons mardi prochain, et donc je ne peux pas assurer quoi que ce soit.
Éric Coquerel ne pense pas que le PS puisse obtenir gain de cause. Le président LFI de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale sur LCI.
Le Parti socialiste n'obtiendra pas le gel, c'est-à-dire l'arrêt de la réforme des retraites, il ne l'obtiendra pas. Je vous le dis, je prends tout ce que vous voulez comme pari. Éventuellement, ils vont sortir des formules alambiquées. Par exemple, cette idée, j'ai entendu cette idée incongrue, par exemple, qui serait un gel pour 6 mois. Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi?
En attendant de trouver un autre modèle.
Et lancer une conférence de financement par ailleurs.
Oui, mais gel pour 6 mois, ça veut rien dire, d'un point de vue concret. Parce que la retraite, il faut bien comprendre que ça se fait par rapport à votre date de naissance.
Chez les Verts, au contraire, on veut croire que François Bayrou fera des concessions sur cette réforme des retraites. Mais sur RTL, Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, se veut radical.
On ne tentera pas de miettes, de micro-symboles qui concernent à la fin quelques milliers de personnes. Nous voulons un geste fort et ils doivent céder.
Toujours à gauche, ce que pense l'ancien président de la République, François Hollande, c'était sur France 3 en fin de matinée.
Je pense que ce qui doit être entendu par le gouvernement Bayrou, c'est pour durer, il faut faire des compromis. Et les compromis, ce n'est pas avec sa majorité, elle est au gouvernement. c'est avec l'opposition et l'opposition de gauche. Je pense que ce qui doit être fait, c'est des gestes à l'égard de toutes les oppositions de gauche.
Madame Zapalski de l'agence Émilie Conseil, François Bayrou doit donc faire un geste en direction de la gauche sur cette réforme pour tenter d'arracher un accord de non-censure.
Mais en tout cas, il a fait ce choix finalement de se tourner vers la gauche. On avait senti le PS ouvrir un petit peu les négociations il y a quelque temps, et puis Bayrou les avait refermées, donnant l'impression qu'il allait faire la même chose que Barnier, c'est-à-dire d'aller taper plutôt à droite ou à l'extrême droite. Finalement, il a fait ce choix de la gauche. Et en effet, il doit leur donner des gages, parce que le PS, il prend des risques. Il commence un petit peu s'indépendantiser du nouveau Front Populaire, en tout cas de LFI. Il faut qu'ils aient des gages, il faut qu'ils rapportent quelque chose pour les socialistes. Et on voit que ça a complètement changé. Hein. Ça a remis, là, vous avez cité pas mal de personnalités de gauche qui passaient aujourd'hui, ça a remis véritablement la gauche et particulièrement le Parti Socialiste sur le devant de la scène, qui joue le rôle d'arbitre comme le faisait auparavant sous Barnier le Rassemblement National. Donc oui, il faut que Bayrou arrive à faire un compromis. C'est pas simple, parce que ils sont assez fermes, évidemment, dans la négociation, jusqu'au bout. Ils ont réussi à avoir un peu du mou sur la retraite, même si Éric Coquerel considère que c'est complètement foireux, en quelque sorte. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, on l'a entendu dans les termes d'Olivier Faure. Mais il va falloir que ça soit du sérieux, sinon il passera à la trappe.
La gauche qui a des hommes dans la place, hein, puisqu'à défaut d'avoir pu faire entrer dans le gouvernement des ministres socialistes en tant que tel, François Bayrou a nommé des poids lourds, qui ont une histoire avec la gauche. Éric Lombard, le ministre de l'Économie, un ancien banquier à la fibre eurocardienne qui pilote justement les discussions. On est vraiment dans la politique politicienne. Là.
Oui, là on sent Éric Lombard, il connaît bien la gauche, il est très proche et donc c'est probablement aussi pour ça que les négociations se passent plutôt bien et qu'il y a des négociations, de véritables négociations. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait l'impression que les gouvernements appelés à la négociation ou aux concertations mais n'avaient rien à mettre sur la table et que tout était déjà ficelé, tout était déjà décidé. Là, on n'a pas cette impression. On a l'impression que Bayrou, oui, ils ont décidé à travers Éric Lombard, à travers aussi Amélie de Montchalin qui travaille beaucoup sur les compromis, ils ont décidé de travailler à ça et de voir comment on peut satisfaire la gauche sans se méprendre, sans tout en ménageant quand même le socle commun et surtout les Républicains parce que pour l'instant, ils ne sont pas tout à fait contents de ce qui se passe sur la réforme des retraites. Donc, c'est tout vraiment un travail d'équilibriste, mais il y a un véritable travail de compromis qui est en cours.
Vous y faisiez allusion il y a de cela quelques instants. Est-ce que ces négociations, ces tractations peuvent faire exploser le NFP, car Jean-Luc Mélenchon de LFI dénonce la servilité, c'est le terme qu'il emploie, de ses partenaires socialistes, écologistes, communistes, car ils discutent donc avec le gouvernement.
Si on s'en tient aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon, on sent bien qu'il sent qu'il y a un véritable risque hein, que le NFP explose cette fois-ci, parce que ça fait longtemps qu'on disait la NUPES va exploser, elle n'a pas explosé, le NFP. Là, on dirait que c'est bien les derniers moments du NFP, et si on écoutait bien Olivier Faure à midi, ça ressemblait quand même à ça, puisqu'il disait il n'y a rien à faire, puisque finalement LFI a toujours voulu imposer son programme et que son programme, et on n'en est plus là. Il l'a clairement dit ce midi, donc je pense qu'il y a un véritable risque. C'est risqué quand même hein, pour le PS. Il joue toute son image de parti de gouvernement responsable qui va au compromis, mais pour cela, encore une fois, il faut qu'il aille dégage, il faut qu'il réussisse à obtenir de véritables concessions de la part de Bayrou.
À droite maintenant, et dans le camp présidentiel, le Premier ministre ne doit pas s'aliéner hein, le soutien des macronistes. Écoutez la parole de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui appartient au parti présidentiel. Sur France Inter, elle n'est pas opposée par principe à arrêter brièvement la réforme pour discuter. Les mots sont particulièrement choisis.
Moi, ce qui me convient, c'est qu'on rediscute. Après, si il faut arrêter pour rediscuter avec un cycle très court de discussion, moi, je n'y suis pas opposée par principe. Mais ce que je veux dans ces cas-là, c'est que vraiment, on soit d'accord pour mettre vraiment les choses sur la table pendant ces 6 mois de discussion et qu'on s'engage tous à discuter réellement et qu'on sorte des postures.
Et puis, en plus de quoi, bien François Bayrou doit faire face à de fortes résistances dans le socle commun qui le soutient. Le président du Sénat, Gérard Larcher, déclare aujourd'hui dans le journal Le Parisien « ni suspension, ni abrogation ». Gérard Larcher qui lance un message clair qu'il répétera demain à 17h30 quand il sera reçu avec Yaël Braun-Pivet d'ailleurs à l'hôtel de Matignon. Toujours dans le même camp politique, le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, juge ce soir qu'une suspension de la réforme des retraites sans mesure de financement serait irresponsable. Pour autant, il n'agite pas la menace d'une motion de censure. Tout cela dans un entretien qui vient d'être mis en ligne sur le site du Parisien. Émilie Sapalsky d'Émilie Conseil. Jusqu'à demain, donc, François Bayrou a laissé son entourage négocier sur les retraites. Il y a donc de sa part une stratégie de rester en surplomb pour ne pas écorner à ce stade son image.
Oui, probablement. Il essaie de se préserver un petit peu. Du côté du socle commun, j'ai l'impression que ça lâche. On l'a entendu là déjà un peu de la part de Yael Braun-Pivet. On l'entend de la part d'autres députés. En gros, le coût de l'instabilité serait plus fort que le coût que représente la suspension de la retraite, de la réforme des retraites pendant 6 mois. On le sent bien. Et on sent qu'il y a une attente. Il y a d'abord Emmanuel Macron qui lui-même, dans les vœux, a un peu avoué que c'était un échec et que ça avait amené à plus d'instabilité politique. Donc on sent bien que c'est ce coup-là de la stabilité qu'ils sont prêts à assumer en lâchant sur la réforme. Côté LR, c'est normal, ils cherchent leur opposition aussi, mais c'est compliqué parce que même dans leur rang, même si l'archer monte au créneau, certains s'étaient opposés à la réforme des retraites, certains avaient dit oui, mais pas comme ça, donc c'est très difficile d'organiser cette riposte. Bayrou, il fait le maximum, il a fait le maximum sur la gauche, il se préserve là sur son camp et il est essaie en effet de se tenir à l'écart. Mardi, il est sous les feux de la rampe, donc en effet, il faut qu'il se protège un petit peu de toutes ces polémiques.
Alors cette actualité trouve un écho dans ce sondage Ipsos pour la Tribune dimanche. Il montre que la cote de popularité du Premier ministre reste scotchée à 20%, c'est la plus basse du quinquennat pour une prise de fonction. Comment est-ce que vous analysez cela?
Je pense que c'est tout à fait normal, hein, parce qu'il est arrivé dans un contexte très difficile. Barnier qui est déjà tombé, donc on a l'impression que hop, on recommence la même chose. Donc je pense qu'il y a un effet... Les Français, c'est comme s'ils étaient un peu blasés, un peu dégoûtés par ce qui se passe et qu'ils ont envie qu'on passe à autre chose. Donc ils n'y croient pas vraiment. Ils attendent pas vraiment de choses exceptionnelles de la part de Bayrou. Donc moi, ça ne m'étonne pas tellement de son arrivée. Je sais que ce sondage montre aussi que la cote de popularité d'Emmanuel Macron souffre énormément.
21%.
C'est très bas. Hein.
Alors que... Durant les Gilets jaunes, Ipsos lui donnait 20%.
Tout à fait, oui. Et donc on est revenu, oui, aux Gilets jaunes. Donc c'est quand même assez grave. Et je pense que depuis la dissolution, ça n'a fait que baisser parce que personne n'a compris. Mais lui, finalement, il s'en est mordu les doigts au final, là, fin d'année. Personne n'a compris pourquoi. Et ça a créé donc beaucoup de remue-ménage depuis ça. Il y a aussi la situation économique qui commence à en souffrir. Et je pense que ça, les gens le ressentent énormément et ont peur de ce qui peut se passer de ce côté-là.
Encore une chose sur ce sondage Ipsos, les membres du gouvernement les plus appréciés sont le ministre de l'Intérieur, 35%, celui de la Justice, 33%, tous deux devancent très largement la ministre de la Culture. Tous sont des membres de la droite.
Oui, tous sont des membres de la droite, mais je pense qu'il faut un petit peu se dire que quand même dans les ministres qui ont été nommés, il n'y en a pas énormément qui ont été connus. Et ceux que vous avez cités, Retailleau, Dati, on parle de Darmanin, on parle aussi de Manuel Valls d'ailleurs, c'est des personnalités qui sont quand même connues, soit parce qu'elles ont été ministres avant, Manuel Valls évidemment quand même une personnalité politique très connue. Donc je pense que voilà, il faut modérer un petit peu ce sondage. Après, je pense que c'est des thèmes porteurs. Ils font de fortes communications, Retailleau, quitte à se prendre les pieds un petit peu dans le plat, comme actuellement là, sur l'Algérie. Mais c'est des gens qui communiquent énormément, qui sont très forts en communication. Rachida Dati, une des premières. Donc c'est des gens qui marquent. Les autres sont un peu moins connus, sont beaucoup plus discrets, même Sébastien Lecornu, hein, beaucoup plus discret alors qu'il est là depuis longtemps.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplin.
Jean-Marie Le Pen repose désormais dans le cimetière de sa ville natale de la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Hier a été célébrée une messe devant 200 personnes, dont Marine Le Pen, sa sœur Marie-Caroline ou encore la petite-fille du défunt, Marion Maréchal. Jean-Marie Le Pen, qui est mort à l'âge de 96 ans, figure de l'extrême droite et de la Ve République, il laisse derrière lui un héritage controversé que devra en grande partie porter sa fille Marine Le Pen, Raphaël Levolvé.
Oui, à l'image des messages publiés le jour de sa mort, très peu de monde rendait hommage à Jean-Marie Le Pen dans la classe politique. Personne, même à l'exception de l'extrême droite. Et encore, dans le communiqué élogieux du Rassemblement national, il est fait mention du mot « polémique ». Chez ses nombreux adversaires, beaucoup rappelaient ses dérapages verbaux sur fond d'antisémitisme, en tête desquels ses propos sur les chambres à gaz qu'il considérait comme un point de détail de la Seconde Guerre mondiale.
Et cette sortie retentissante l'a poursuivi toute sa carrière jusqu'à provoquer la rupture avec sa propre fille.
Oui, ses propos remontent à 1987, ils ont été réaffirmés en 2015. À l'époque, c'en est trop pour Marine Le Pen, désormais à la tête du Front National et en quête de normalisation. elle exclut son propre père du parti. Il le lui rendra bien d'ailleurs en la traînant devant les tribunaux et allant même jusqu'à lui demander publiquement de ne plus porter le nom Le Pen. Cet affrontement aidera en grande partie Marine Le Pen à obtenir de meilleurs résultats électoraux. Deux fois finaliste de la présidentielle, le parti à la flamme, désormais appelé Rassemblement National, toujours dans une volonté de rupture, a également obtenu jusqu'à 11 millions de voix aux dernières élections législatives, soit plus du double de ce qu'avait obtenu Jean-Marie Le Pen en 2002, lorsqu'à la surprise générale, lui aussi arrivait à se qualifier au second tour d'une présidentielle. Mais si les résultats sont bien meilleurs, le RN et Marine Le Pen échouent constamment à gagner et restent marginalisés, comme si une barrière psychologique empêchait encore bon nombre d'électeurs. La présence de candidats loufoques et parfois ouvertement racistes lors des dernières législatives ne fait évidemment que renforcer cette barrière.
Raphaël Delvolvé, encore une question. Marine Le Pen peut-elle totalement rompre avec son père ?
C'est extrêmement difficile, tant il y a des efforts sur la forme, mais il est difficile, voire impossible, de se passer du fond. Les grandes thématiques imposées par Jean-Marie Le Pen sur l'immigration et l'identité nationale, précisément celles qui ont fait l'ascension électorale du parti et qui font toujours son image de marque. Si Marine Le Pen a tendance à mettre l'accent sur des questions plus sociales pour élargir son socle électoral, en allant vers la gauche, elle prend le risque de perdre à sa droite. Ça s'était vu pendant une courte période dans les sondages à la dernière présidentielle lors de l'irruption dans le paysage d'Éric Zemmour, autre candidat d'extrême droite et dont la campagne tournait essentiellement autour du grand remplacement. Elle menaçait celle du RN. Marine Le Pen doit donc jouer cet équilibre. Pour l'instant, ça ne suffit pas à l'emporter.
Émilie Zapalski, la disparition du fondateur du FN est-elle une opportunité pour le RN de Marine Le Pen ?
Mais je pense que c'est une page qui se tourne et qui peut alimenter la normalisation du Rassemblement National que a commencé Marine Le Pen depuis plusieurs années et qui lui est favorable, même si, comme le journaliste le disait, ça peut l'empêcher de trop marteler les fondamentaux qui ont fait le Front National sur l'immigration, la sécurité. Mais moi, je pense que ça peut être une pierre supplémentaire dans tout ce travail qu'elle fait pour dire nous sommes un parti qui peut gouverner, qui est normal, qui a sa place à l'Assemblée, qui est totalement démocratique. Maintenant, moi, je pense que ce qui est plus risqué aujourd'hui, c'est pas cette question-là. C'est la question de la stratégie choisie par le Rassemblement National à l'heure actuelle, en termes d'opposition, la censure à Michel Barnier, qui leur revient comme un boomerang dans la figure en ce moment, par rapport à ce que fait Bayrou, qui se tourne plutôt vers la gauche pour négocier et pas vers le RN. Ils ont été en quelque sorte cornerisés par cette stratégie. Ça risque de leur coûter cher, je pense, parce que là, ils sont véritablement en difficulté pour continuer à exister.
Oui, le RN était faiseur de roi du temps de Barnier et il ne l'est plus, visiblement, on l'entendait. Hein, c'est plutôt le Parti Socialiste avec Olivier Faure. Pourquoi avoir raté, on va dire, ce moment clé.
Je pense qu'il y a été, il y a eu plusieurs choses. C'est vrai qu'on a senti le RN qui n'était pas fiable, parce que finalement, Barnier leur avait fait pas mal de concessions. Hein. De mémoire, c'était 3 concessions sur 4, donc c'était assez énorme. Et ça n'a pas empêché la censure. Je pense qu'il y a eu la question du procès de Marine Le Pen, avec le réquisitoire qui était très fort, qui a été comme un choc, et qui a donné un délai 31 mars, éventuellement une inéligibilité de Marine Le Pen. Donc ça a été un choc. Et je pense qu'il y a quand même la base des électeurs, des militants qui réclament un petit peu plus de sang auprès du gouvernement, qui veulent de l'opposition, qui veulent du clash, qui veulent que le Rassemblement National garde ce côté opposant très fort, qui va chercher loin les batailles. Malheureusement, elle a dû écouter ça et puis ce choc du procès, mais ça ne leur a pas été du tout favorable. Et là, il va falloir qu'ils travaillent encore pour savoir comment, quelle stratégie prendre si le compromis se fait, comme ça semble se préciser, du côté de la gauche.
Merci pour ces analyses et commentaires, Émilie Zapalski, spécialiste en communication politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. C'était Dimanche Politique, à retrouver sur les applis et sur le site internet de Radio France Internationale. Dimanche Politique qui était réalisé ce soir par Valentin Vaner.